Vous écoutez, on lit pour vous.
Pour un astro-environnementalisme canadien. Un texte de Jean-Frédéric Morin, paru le 8 mai 2025 dans La Presse. Jean-Frédéric Morin est membre de l'École supérieure d'études internationales, professeur titulaire, département de sciences politiques, Université Laval et directeur du CIRGOM. L'actualité spatiale récente, qu'il s'agisse des astronautes coincés à bord de la station spatiale ou du bref voyage orbital de Katy Perry, détourne l'attention d'une révolution en cours. La prolifération fulgurante des satellites. On en dénombre déjà plus de 14 000 et leur nombre augmente à un rythme exponentiel. En 2025 seulement, on en lancera plus que durant l'ensemble des 50 années qui ont suivi le lancement de Spoutnik en 1957. Cette explosion du nombre de satellites a d'importantes répercussions sur les écosystèmes terrestres, en particulier au Canada. Dans ce contexte, le gouvernement canadien doit jouer un rôle de leader pour une gouvernance écologique des orbites. Il ne peut abandonner cette responsabilité aux autres gouvernements ou aux entreprises étrangères. Une ruée vers les orbites. On assiste à une véritable ruée vers les orbites basses, situées entre 100 et 2000 km d'altitude. Le meneur est SpaceX et sa constellation Starlink, qui offre un accès Internet plus fiable, rapide et abordable que les anciens systèmes en orbite haute. Starlink compte déjà plus de 7 000 satellites et prévoit en déployer 30 000 autres. Cela représente à terme une masse de 3 000 tonnes filant à 27 000 km/h autour de la Terre. Plusieurs autres concurrents se disputent les créneaux orbitaux, dont l'Européen OneWeb, l'Américain Amazon, le Chinois Qianfan et l'entreprise canadienne Telesat, avec son projet Lightspeed et ses satellites fabriqués au Québec par MDA Space. Déjà, la congestion est telle que les opérateurs de satellites doivent régulièrement effectuer des manœuvres pour éviter les collisions avec des débris ou d'autres satellites. Et ce n'est que le début. Certains analystes évoquent la possibilité de 100 000 satellites en orbite dès 2030. Des bienfaits sociaux et environnementaux. Pour un pays vaste et peu densément peuplé comme le Canada, cette frénésie spatiale apporte des avantages clairs. En effet, les services Internet par satellite améliorent considérablement les conditions de vie dans les régions éloignées. Pensons aux pêcheurs du golfe du Saint-Laurent, aux pompiers combattant les incendies de forêt, aux militaires dans l'Arctique ou aux Autochtones sur leurs territoires ancestraux. Ils peuvent désormais rester en contact avec leurs proches ou consulter un médecin à distance. Le fossé numérique se comble. Les satellites jouent également un rôle crucial dans la protection de l'environnement. Ils permettent de surveiller l'état des forêts, des océans et des glaciers, de détecter la pêche illégale et de suivre les émissions de polluants. Les bénéfices sont évidents pour un pays forestier, maritime et nordique, comme le Canada. Des menaces pour l'environnement. Ces bénéfices ont aussi un prix écologique. D'abord, les lancements de satellites génèrent des gaz à effet de serre et des particules de suie qui contribuent au réchauffement climatique. C'est un problème qu'aucun pays ne peut ignorer, et encore moins le Canada, qui se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Une autre inquiétude concerne la couche d'ozone. Les satellites en orbite basse finissent par retomber dans l'atmosphère où ils se désintègrent. Ce processus libère des substances chimiques qui peuvent éventuellement endommager la couche d'ozone. Celle-ci et pourtant essentielle à la filtration des rayons ultraviolets. Son appauvrissement augmenterait les risques de cancer de la peau, dont l'incidence est déjà élevée au Canada. Une troisième préoccupation est la chute de débris. Des fragments de fusées ou de satellites s'écrasent de plus en plus fréquemment et contaminent les écosystèmes avec leurs substances toxiques. Le Canada est particulièrement vulnérable à ce type d'événement en raison de son étendue. En 1978, un satellite soviétique s'est écrasé dans les territoires du Nord-Ouest, répandant son combustible radioactif. En 2018, des Inuits canadiens ont assisté à l'écrasement d'une fusée russe sur leur territoire de chasse. Une quatrième forme de pollution est visuelle. Les satellites sont visibles à l'œil nu de la Terre et perturbent l'observation des étoiles. Les premiers touchés sont les astronomes et les peuples autochtones, dont la relation particulière aux étoiles imprègne leur langue et leur culture. Pour une gouvernance viable des orbites, ces impacts environnementaux ne signifient pas qu'il faille faire marche arrière. Les satellites offrent trop de bienfaits pour y renoncer. En réalité, des solutions techniques existent déjà pour atténuer chacun des problèmes environnementaux évoqués. Le vrai défi n'est pas technologique, mais politique. L'Université Laval a recensé environ 2000 accords internationaux sur l'espace et constaté que peu d'entre eux prennent en compte les enjeux environnementaux. Bien que les dommages soient mondiaux, la coopération internationale reste timide. Quelques pays sont avant-gardistes, mais d'autres tolèrent des pratiques dépassées. Comme le Canada est à la fois l'un des principaux bénéficiaires et une victime potentielle de la prolifération des satellites, il doit exercer un véritable leadership. Il faut montrer l'exemple et inciter nos partenaires à emboîter le pas. C'était pour un astro-environnementalisme canadien, un texte de Jean-Frédéric Morin, paru le 8 mai 2025 dans la presse.
Voici comment les tendances déco en matière de plancher ont évolué en 140 ans, un texte commandité, paru le 23 avril 2025 dans le Journal de Montréal. Vous souvenez-vous de la déco de votre enfance ou même de votre premier appartement? Avouez que cela a bien changé. En effet, les tendances en matière d'intérieur évoluent au rythme des innovations technologiques, des vagues esthétiques et des besoins fonctionnels des consommateurs. Et il n'y a pas que les couleurs des murs et les bibelots qui ont changé au fil des années. Les planchers de nos maisons, eux aussi, ont eu leur lot de modes. Retour sur 150 ans de tendance plancher. 1883-1920, diversification des matériaux. À la fin du 19e siècle, les tapis tissés à la main dominaient dans les intérieurs cossus, apportant chaleur et raffinement. Avec l'industrialisation, les tapis fabriqués à la machine se sont répandus dans nos chaumières, rendant ces revêtements plus accessibles. D'un autre côté, les planchers en bois brut ou lustré devenaient des choix prisés pour leur robustesse. 1920-1940, l'essor du linoléum. Les années 1920 voient l'arrivée en force du linoléum, un matériau durable et facile d'entretien. Disponible en une multitude de couleurs et de motifs, il devient un incontournable pour les cuisines et les salles de bain, où son imperméabilité est un atout majeur. 1940-1960, le bois et le vinyle s'imposent. Après la Seconde Guerre mondiale, le parquet en bois franc, symbole de modernité et d'élégance, gagne en popularité. Dans les années 1950, la pétrochimie favorise l'apparition du vinyle, une option plus abordable, durable et simple à entretenir, qui s'invite dans de nombreux foyers. 1960-1970, le tapis mur à mur, un incontournable. Les années 1960 et 1970 marquent le règne du tapis mur à mur. Doux, coloré et chaleureux, il est adopté dans les chambres, les salons et même les cuisines. Cette période est également marquée par une explosion de motifs et de textures, reflétant l'audace du design intérieur de l'époque. 1970-1990, la parquetterie et le laminé entrent en scène. Alors que le tapis reste présent, la parquetterie fait une percée remarquée dans les années 1970. Conjuguant esthétique et durabilité, elle devient un choix prisé par les consommateurs. En parallèle, le plancher laminé fait son apparition, bien que son succès initial reste modeste. 1990-2000, le renouveau du carrelage et du bois. Dans les années 1990, la céramique s'impose comme une option durable et facile à entretenir, tandis que le tapis mur à mur diminue peu à peu. Les matériaux naturels comme la pierre et le bois franc connaissent un regain, préfigurant une tendance vers des choix plus écologiques et authentiques. 2000-2020, performance et innovation. Le début du 21e siècle est marqué par l'amélioration des technologies de revêtement. Le vinyle et le laminé haut de gamme se perfectionnent, offrant des imitations réalistes du bois et de la pierre, par exemple, alors que le bois d'ingénierie, facile à installer, se retrouve partout. Depuis 2020, une approche éclectique et éco-responsable. Aujourd'hui, la tendance est à la variété et à l'éco-responsabilité. Le liège, les matériaux recyclés et le bois durable sont privilégiés. Les consommateurs recherchent des sols personnalisés, combinant esthétique, durabilité et performance. Ainsi, en 140 ans, le revêtement de sol est passé du tapis tissé à la machine à une variété de choix infinis répondant aux exigences techniques et esthétiques des époques traversées. C'était « Voici comment les tendances déco en matière de plancher ont évolué en 140 ans », un texte commandité paru le 23 avril 2025 dans le Journal de Montréal.
La fille de Gisèle Pélicoux veut aussi être reconnue comme victime. Un texte de Magdalene Boutros paru le 29 avril 2025 dans Le Devoir. Rongée par l'injustice, se sentant oubliée et invisibilisée, Caroline Darian crie son besoin d'être reconnue comme victime dans son livre « Pour que l'on se souvienne ». De passage à Montréal, la fille de Gisèle et Dominique Pélicoux dit vouloir faire de sa lutte pour obtenir la vérité sur ce qui lui est arrivé un combat pour toutes les victimes de violences sexuelles maintenues dans l'obscurité. Quand je dis que j'ai été la grande oubliée du procès pour les viols de Mazan, c'est le sujet de l'inceste qui a été complètement passé sous silence, déplore-t-elle au Devoir. Dans les 20 000 fichiers numériques de Dominique Pélicoux saisis par la justice, deux photos, affublées des titres « La fille de la salope » et « Ma fille à poil », montrent Caroline Darian allongée en position fœtale portant une culotte qui n'est pas la sienne, la même sur les deux clichés. Ces photos, je suis sûr qu'il y en a eu d'autres. Je sais que j'ai été sédatée pour être abusée par mon père. « Mais je ne peux pas le prouver », écrit-elle dans son livre manifeste. Moins de 1% des victimes de violences sexuelles ont des preuves de ce qu'elles ont subi,
comme c'est le cas pour sa mère, rappelle-t-elle. Les autres ne sont pas entendus, crus et n'ont pas de preuves, pas de reconnaissance, poursuit la femme de 46 ans dans l'ouvrage faisant suite à son premier livre « Et j'ai cessé de t'appeler papa », paru en 2022. Mise de côté. Dire qu'il n'y a qu'une seule victime avérée, Gisèle Pélicaud, ce serait mentir, poursuit Caroline Darian en entrevue. Les enquêteurs, possiblement sidérés par ce qu'ils ont découvert, ont voulu faire vite, trop vite peut-être. Ils voulaient qu'il y ait un procès pour les faits commis sur ma mère. Un procès qui s'est conclu en décembre 2024 par un verdict de culpabilité pour Dominique Pélicaud, condamné à 20 ans de réclusion. Pendant 10 ans, le père de famille a invité des dizaines d'hommes à son domicile de Mazan, dans le sud de la France, pour violer celle qui est maintenant son ex-femme, sédatée et inconsciente. Des crimes documentés par des milliers de photos et de vidéos. Les deux clichés de Caroline, tout comme sa quête de vérité, ont ainsi été mis de côté, déplore-t-elle. J'ai dit à la justice, j'ai dit aux enquêteurs, j'ai dit à la juge d'instruction. Mon père m'a drogué et a sans doute fait plus. Je vous demande d'investiguer, je vous demande de le faire parler. Mais rien n'y a fait. Comme seule réponse, Caroline Darian a reçu, pendant le procès, ces mots de Dominique Pélicaud, signe de ses évitements, de sa froideur et de son manque d'empathie. « Je ne me souviens pas si j'ai pris ces photos. » En outre, il nie avoir agressé ses enfants et ses petits-enfants. Refus de sa mère. Une absence d'aveu et d'investigation plus poussée qui ont laissé Caroline Darian seule, avec un sentiment d'abandon et d'injustice. D'autant que sa mère a refusé de la reconnaître, elle aussi, comme une victime de Dominique Pélicaud. « Ma mère ne veut pas me croire ni m'entendre, laisse-t-elle tomber. » Une implacable réalité qui a transpercé la quadragénaire de douleur pendant le procès. « L'abandon de trop », écrit-elle. À ce jour, les deux femmes n'ont pu rétablir les ponts. Elle continue sa vie, indique l'autrice au Devoir. On se parle très peu. Je pense qu'elle ne peut pas m'aider. Et il faut que je le respecte. Peut-être s'agit-il d'un mécanisme de défense, suggère Caroline Darian. Pour ma mère, elle est la seule victime. Il n'a pu s'en prendre qu'à elle. Gisèle Pélicaud, qui rédige ses mémoires, aurait d'ailleurs probablement souhaité que ce livre ne voie pas le jour, avance sa fille. Mais, moi, j'ai souhaité m'affranchir de ce qu'elle pouvait penser parce que ça fait partie de ma réparation. Mon analyse et mon décryptage ne seront jamais, sans doute, les siens. D'autres victimes. Ce livre, Caroline Darian, a aussi voulu l'écrire pour dénoncer les défaillances du système judiciaire et rendre hommage aux autres victimes de Dominique Pélicaud. L'homme, selon elle, est un violeur en série. J'en suis convaincu. Ce qu'il reste à savoir, c'est combien sont-elles. Dans son livre, l'autrice fait le récit de deux agressions sauvages d'agentes immobilières soumises avec de l'éther en 1991 et 1999. Du sang retrouvé sur l'une des scènes de crime a été recoupé avec l'ADN de Dominique Pélicaud, mais des prélèvements de l'autre agression, qui s'est soldée par le meurtre de la jeune femme, ont été perdus. « Comment est-ce possible ?» dit Caroline Darian, en accusant un système qui permet aux prédateurs sexuels de s'en sortir et de continuer à avoir une vie normale. Pour se reconstruire et donner une voix aux victimes ne pouvant être reconnues comme telles, Caroline Darian a fondé en 2023 l'association « M'endors pas ». « J'ai souhaité lever le voile sur un fait de société, la soumission chimique, dont on ne parlait pas du tout il y a encore 5 ans et qui s'avère être l'arsenal préféré des agresseurs sexuels », explique-t-elle. Une arme de crime agissant comme le stade suprême de la domination masculine à des fins de crime et d'agression sexuelle. un combat que la mère de famille dit aussi mener pour être dans l'action, puisque subir et encaisser, c'est trop. Ça fait partie de ma thérapie. En février 2025, Caroline Darian a déposé une nouvelle requête en justice pour que soit relancée l'enquête sur les crimes que Dominique Pélicaud aurait commis à son endroit. J'ai un espoir infime que ça aboutisse à une suite, mais j'ai voulu aller jusqu'au bout de ce processus pour moi. Puisque cette vérité, elle assure qu'elle continuera à la revendiquer, que ça plaise ou non. C'était « La fille de Gisèle Pélicaud veut aussi être reconnue comme victime », un texte de Magdalene Boutros, paru le 29 avril 2025 dans Le Devoir.
Dix ans de couple gay, en année hétéro, ça fait combien? Une chronique de Nicolas Vandal, parue le 22 mai 2025 dans le magazine Fugue. Ce mois-ci, ça fera 10 ans que je suis avec mon chum. C'est l'adoption d'un chat, 2 burn-out, 1 chacun, question d'être équitable, 3 voyages dans le sud, l'achat d'un condo et une phase 0 déchet qui s'est terminée avec 46 pots maçons. Chaque fois que je le dis, il y a toujours un gars qui sort. 10 ans pour un couple gay, c'est comme 30 chez les hétéros. Avant, je riais. Maintenant, je me demande pourquoi on dit ça. Pourquoi cette réputation qu'on ne dure pas? J'ai ma petite théorie. On n'a juste pas eu les mêmes bases. Pour plusieurs d'entre nous, l'intimité a commencé en mode furtif. Vite fait, en cachette, sans trop s'attacher. Mes premières dates, c'était sur MIRC. Je jasais avec des gars au pseudo-flou du genre Gay 18MTL, Discreet QC. Une main sur le clavier, l'autre prête à tout éteindre si ma mère ouvrait la porte. On vivait chez nos parents, chacun dans son placard. Alors, les rendez-vous, c'était souvent dans les bois, tard le soir. Version Blair Witch Project. Sans la sorcière, mais avec la même angoisse de se faire pogner. C'était du stress, des échardes et une libido qui essayait de se convaincre que tout était normal. Là-dedans, tu n'apprends pas à aimer. Tu apprends à gérer le risque, à combler le corps sans trop impliquer le cœur. Ce n'est pas un hasard si, encore aujourd'hui, beaucoup de nos histoires brûlent aussi rapidement qu'elles commencent. Même une fois sorti du placard, ce réflexe m'est resté. Aimer vite, en surface, et disparaître avant que ça devienne sérieux. J'étais excellent pour le flirt, nul pour bâtir quoi que ce soit. Avant mon chum, ma plus longue relation avait duré moins longtemps que les 3 films du Seigneur des Anneaux mis bout à bout. On rêve d'une romance à la « Call me by your name ». C'est beau, c'est intense. Mais à force de croire que l'amour va arriver comme une commande Amazon Prime, rapide, excitante et sans effort, on oublie que les vraies choses prennent du temps. Ajoute à ça une époque où tout est conçu pour aller vite. Rencontrer quelqu'un aujourd'hui, c'est comme magasiner en ligne. Tu scrolls, tu likes, tu compares. En 5 minutes, tu peux matcher avec 40 gars, planifier une date pour ce soir, un backup pour demain et quelqu'un à ghoster pour vendredi. Je généralise, bien sûr. J'en connais des couples gays qui durent, qui s'aiment, qui traversent les tempêtes sans retourner sur Grindr au moindre petit froid. Mais soyons honnêtes, ils restent perçus comme l'exception. Beaucoup disent que les applis ont tué l'amour. Moi, je dirais qu'elles l'ont recyclé. Avant, on se retrouvait dans les bois ou dans les saunas. Maintenant, on swipe. Même mécanique. Immédiateté, anonymat relatif, accès rapide à une forme d'intimité sans lendemain. Les applis ont juste élargi le terrain de chasse. En un clic, t'as accès à une tonne de profils, filtrés par distance, poids, préférences sexuelles, type de relation. Génial, en apparence. Mais quand on traite l'amour comme un buffet à volonté, on finit par croire que la seule relation qui mérite d'être vécue, c'est celle qu'on n'a pas encore goûtée. Si j'avais suivi mon réflexe, la première date avec mon chum aurait été la dernière. J'étais en retard, je puais parce que j'avais couru pour pas l'être encore plus et je me suis endormi sur son divan devant un film. Lui, il était un brin timide et trop geek à mon goût. Pourtant, on s'est revus. Pas parce qu'on a eu une vision divine, ni parce qu'il avait des mollets d'acier. Juste parce qu'à un moment donné, au lieu de fuir comme d'habitude, on a décidé d'essayer autrement. Après, évidemment, sont venus les papillons, le sexe 6 fois par jour et les textos qui font battre le cœur. Tout est charmant, même sa façon de parler de ses rayères. T'es en mode séduction 24/7. Convaincu que votre couple est l'exception absolue. Pas de chicane, zéro effort, juste du bonheur en continu. Spoiler, la lune de miel a toujours une fin. Aimer après 10 ans, c'est autre chose. C'est moins cute en story Instagram, mais plus solide dans la vraie vie. Ce n'est plus 200 textos par jour, c'est un regard qui comprend tout sans parler. C'est un « je suis à l'épicerie, tu veux de quoi ?» au lieu d'un « je pense à toi ». C'est quelqu'un qui reste, même quand tu deviens invivable parce que t'as faim. C'est doux d'une façon que même les débuts les plus enivrants ne peuvent égaler. Quand je repense à cette phrase qu'on entend souvent, « 10 ans pour un couple gay, c'est comme 30 chez les hétéros », je la comprends autrement maintenant. Ce n'est pas juste une exagération, c'est une façon un peu maladroite de dire quelque chose de vrai. Le poids de ce qu'on a dû déconstruire, la vitesse à laquelle on a appris à partir, le réflexe de fuir dès que ça devient trop vrai. Je n'ai peut-être pas une théorie en béton, mais je suis pas mal sûr que je suis loin d'être le seul à me reconnaître là-dedans. C'est peut-être juste pour ça que j'ai voulu écrire ce texte. Pas pour dire que mon couple est un modèle, il ne l'est pas, ni pour glorifier la longévité. Des fois, partir est la meilleure chose à faire. Juste pour rappeler que ça existe, 2 gars qui apprennent à rester, à être heureux. Même quand ça ne ressemble pas à Timothée Chalamet et Armie Hammer sur fond de coucher de soleil. Même quand l'algorithme essaie de te convaincre que tu pourrais avoir mieux. Parce que ce n'est pas toujours magique, mais c'est réel. C'était 10 ans de couple gay. En année hétéro, ça fait combien? Une chronique de Nicolas Vandal, parue le 22 mai 2025 dans le magazine Fugue.